Nous allons évoquer les journées du patrimoine, qui est un pendant aux journées du patrimoine, mais que je sache, l'humanité, bon, il y a des femmes et des hommes, donc ça me paraît assez logique, puisque bon, patrimoine, ça renvoie à patriarche, à pater, à père, enfin, donc voilà. Dans les journées du patrimoine, à Toulouse, c'est la 3e édition. Chaque année, ben, elle grandit un peu plus, si je puis dire, puisque la première année, c'était un jour, une balade. Hein. L'an passé, c'était 2 jours, le samedi et le dimanche, et cette année, ça commence le vendredi soir en plus, façon enfin un peu festive, un peu, mais elles l'expliqueront tout à l'heure. Et ensuite le samedi et le dimanche avec 3 balades en fait, une le samedi, 2 le dimanche. Et donc pour ce faire, nous recevons Marine Vors du collectif Hommes-Femmes, donc il y en a un membre, et puis aussi qui travaille au Grand Rond,
c'est ça.
Et aussi Lucie Gaillard de la structure Interprète en Mouvement, mais plus connu sous RIM, voilà,
oui.
Puisque cette année, les journées du patrimoine, notamment pour une des balades, seront aussi traduites, interprétées, pardon, en langue des signes. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous.
Merci.
Bah, tout d'abord, peut-être, voilà, revenir sur la notion de patrimoine et puis cette nécessité. Comment tout cela
s'est ficelé? Ça remonte à 3-4 ans maintenant. Y a plusieurs personnes qui se sont emparées de cette problématique-là, et pas mal de personnes à la fois au sein du mouvement HF, qui du coup, nous on est les représentants régionaux en fait, de ce mouvement, mais c'est un mouvement qui est national.
Oui, oui.
Et un peu partout en France, et notamment via Aurore Evin, qui est quand même une grande militante. Y a cette idée de patrimoine qui s'est vraiment imposée à tout le monde. Ça a été également très poussé par OLF.
Osons le féminisme.
Osons le féminisme, pardon. Et du coup, on s'est retrouvés sur cette base-là, et on s'est dit, que faire. Et du coup, ça s'est vraiment, là, depuis 3-4 ans, ça s'est vraiment disséminé, puisqu'il y a des journées du patrimoine un petit peu partout en France. Alors, ce qui est chouette, c'est que ça se passe sous des formes très différentes. Que ce soit à Montpellier, à Lyon, à Paris, etc. C'est jamais la même chose, c'est sans cesse renouvelé, et l'idée fondatrice, c'est on ne peut plus mettre en avant que des œuvres, que des choses qui ont été réalisées par des hommes à un moment donné, que ce soit
il faut rétablir l'équilibre et la vérité, entre guillemets.
Il faut rétablir effectivement cet équilibre, ne serait-ce que pour les générations qui arrivent, pour qu'elles puissent se projeter aussi sur plein d'autres choses dont pour l'instant elles sont privées, quoi. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'historique des journées du patrimoine, donc qui comme ça, tous les ans,
grandissent
un petit peu plus. Et ensuite, est-ce que vous pouvez aussi présenter aussi le collectif Hommes-Femmes dans celui du Midi-Pyrénées? Comment vous dites
Occitanie? On dit rien maintenant, pour l'instant. C'est compliqué. Enfin non, c'est pas compliqué, mais du coup, ça prend du temps. On est en lien avec nos collègues de LR, avec les collègues de Montpellier, avec qui on fait plein de choses et plein de ponts. Mais quand il y a deux axos qui existent, forcément faire la fusion, c'est toujours un petit peu long. Donc on les voit bientôt, et ils font plein de choses de leur côté, notamment sur le patrimoine à Montpellier. Et du coup, le mouvement HF, c'est un mouvement qui est né suite au rapport Rennes-Pratt en 2001 et 2003. Rennes Pratt, elle a fait un rapport qui lui a été commandé par le ministère de la Culture et la Communication sur quelle est la place des femmes dans la culture. Donc on parle de postes à responsabilité,
chef d'orchestre, directrice de
salles à gros budget, etc. Donc on parle plutôt du secteur institutionnel, mais quand même. Et du coup, elle a réalisé, elle a fait ses chiffres, etc. Et là, c'était juste catastrophique. Et affligeant. C'est toujours le cas.
Oui.
On a sorti la dernière plaquette, là, on a fait un petit bilan des 10 ans, toujours avec la SACD. Ça stagne quand ça n'a pas tendance à régresser. Et par contre, il y a plus de 10 ans, ce constat-là a fait beaucoup de bruit. parce qu'on n'imaginait absolument pas ça. On imagine toujours les milieux de la culture très avant-gardistes, très au fait de la société, etc. etc. Non, il faut savoir que la culture, c'est pire que l'armée en termes de représentativité. Donc déjà, quand ça s'est posé, on a la base. Et du coup, de ces rapports-là, bah, y a plein de gens de la société civile qui se sont dit « c'est pas possible, on peut pas rester comme ça ». Et c'est comme ça qu'a été créé le premier mouvement HF. Historiquement, c'est HF Rhône-Alpes, donc c'est nos collègues de Lyon. Et puis évidemment, après Paris, etc. etc. Et nous, en Midi-Pyrénées, donc voilà, en Occitanie, on va dire, on est tout jeune puisqu'on a que 4 ans nous, d'existence. Voilà. On a commencé par un collectif et puis maintenant, on est une association. Et là, on est en train de voir comment on s'organise effectivement sur cette nouvelle grande région pour pouvoir faire un peu plus d'action sur l'ensemble de la région. On essaye, nous, à Midi-Py, de se décentraliser un peu. On fait pas mal d'actions avec la date du Lot. Mais c'est compliqué parce que c'est comme toutes les assos. On n'est pas très nombreux au bureau. Et même si c'est vrai, il y a plein de gens qui sont d'accord avec le fait qu'il faut changer un peu les choses, c'est toujours un peu long.
Ça ne se fait pas aussi.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Et puis les gens ont un poste de direction, je pense notamment au scène nationale, au CDN, ou même au cinéma. Ils y sont pour un certain temps. En général, ils ont un mandat pour un certain temps.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'il y en a très peu. Des chefs d'orchestre, là, n'en parlons pas. Elles sont 2-3, je crois,
c'est
en France.
Et puis, c'est pour ça qu'il faut aussi lutter.
C'est pareil dans le domaine des grandes écoles aussi.
Ce qui doit se faire en amont. C'est toujours pareil au niveau des jurys, au niveau des recrutements. Parce qu'en fait, c'est une sorte de cercle vicieux qui se mord la queue. Parce que, après, il y a aussi toute une part, et on en parlera peut-être avec la petite, parce qu'elles font ça très bien, de donner confiance aussi aux femmes pour qu'elles se sentent légitimes à postuler à ces postes-là. Il y a vraiment... Le problème, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs vraiment très, très différents, des facteurs qui sont sociétaux, mais aussi culturels, des facteurs d'éducation des femmes qui sont forcément... On répète aux petites filles de rester sages et de se taire. Donc forcément, au bout d'un moment, ça infuse largement. Et du coup, tous ces mécanismes-là, il faut arriver à les renverser. Et puis, le matrimoine, on espère, aide à ça aussi.
Et puis aussi, quand des fois certaines dames deviennent maman, c'est vrai que souvent, alors que quand c'est les enfants qui ont des papas, ça ne fonctionne pas pareil.
C'est ça. De toute façon, on le sait, même si... Alors, on a vu sur les derniers chiffres, là, je ne les ai pas en tête, mais il y a un tout petit peu mieux au niveau du partage des tâches en termes de temps de tâches ménagères, mais ça reste vraiment très, très minime. Alors il y a plein de gars qui font plein d'efforts, mais le problème, c'est qu'on est là, on se dit, tiens, il y a plein de gars qui font des efforts. Alors que non, ça devrait pas être ça en fait. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est pas ça, c'est ok, on partage, vraiment. Tant qu'on en sera à se dire ah bah tiens, c'est cool, les mecs aident, on n'aura pas gagné quoi. C'est que voilà, et du coup, forcément, quand une femme a un enfant, c'est toujours la première quand même qui est concernée par les sorties de crèche, les jours de maladie, les choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est délicat pour mener une carrière à bien, en tout cas, c'est sûr.
Mais en fait, c'est tout un fonctionnement qui est bien implanté, si on peut dire, c'est très difficile à faire bouger, parce que c'est quelque chose d'ancestral. Et puis, au niveau des réactions des personnes concernées, elles sont... C'est pas forcément évident. Il y a toute une histoire d'éducation, c'est le cas de le dire. Mais d'où l'importance de l'éducation des jeunes enfants.
Ah oui, ça c'est fondamental, c'est sûr. Et puis parfois, nous, quand on explique notre problématique à certaines personnes, elles nous disent qu'on a tort, réellement. Et elles nous disent mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, mais les femmes, et notamment dans la culture, mais les femmes ont pris le pouvoir. Enfin, vraiment, et c'est des réactions qu'on a très régulièrement, parce que on a cette impression de l'égalité par rapport à plein de choses.
Il y a quelques metteurs en scène,
ça reste qu'une impression, et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est qu'on se dit, mais oui, mais c'est bon, les femmes, elles sont arrivées. Mais en fait, pas du tout. C'est assez gravissime, ce qui se passe. Voilà, mais c'est pour ça qu'on est là.
Mais puisque vous parliez tout à l'heure de l'association La Petite, bon, la, oui. la représentante, elle ne peut pas être là, ouais. puisqu'aujourd'hui, elle est occupée. Peut-être vous pouvez dire
tout à fait. Donc, Laura Teia, qu'on salue et à qui on fait des gros bisous. Elles sont fort occupées, là, l'association, puisque du coup, on organise aujourd'hui un workshop avec une artiste plasticienne qui s'appelle Pauline Isbach. Et c'est pour préparer, en fait, les collages, en fait, qui auront lieu sur les parcours des journées du matrimoine. Donc là, elles sont en train de découper-coller sur une base de photographie forcément à visée féministe et historique. Et du coup, voilà, ça se passe au Métronome en ce moment même. Et voilà, c'est pour ça que Laure ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui.
Et c'est ouvert à...
Alors, c'était ouvert à tout le monde. Artistes, non-artistes, débutants, pas débutants. Oui, c'était vraiment ouvert à tout le monde aujourd'hui au Métronome, ouais.
Et justement, allez-y. L'association La Petite, entre autres, elle s'occupe de groupes de musiciens ou de musiciennes dans leur démarche artistique, mais aussi administrative. Et aussi, ensuite, entre autres, elles organisent aussi des ateliers, notamment pour redonner confiance justement aux femmes. Et c'est Regarde ton
corps. Vois
ton corps comme il est beau.
Dont d'ailleurs, Nathalie Vinot, qui est notre guide pendant les journées du matrimoine, intervient en fait sur ces cycles de formation. Et c'est exactement ce qu'on disait juste à l'instant, en fait, voilà, la musique est aussi un milieu très très masculin, et il y a quand même pas mal d'artistes femmes qui émergent. Il y a des artistes musiciennes, mais souvent on nous dit ah ben non, on sait pas, on les connaît pas, mais si, en fait, elles sont là, mais faut les chercher, faut les trouver. Elles ont beaucoup plus de mal, mais ça c'est comme dans n'importe quel réseau, elles ont beaucoup plus de mal à se faire du réseau, à se faire connaître. Et du coup, voilà, c'est vrai que La Petite met en place tout un système de formation, d'ateliers, d'accompagnement, pour que les femmes puissent se mettre en valeur, qu'elles puissent mettre leur travail en valeur, qu'elles prennent confiance aussi en leur travail, qu'elles soient capables de défendre leur création. Alors ça peut paraître de se trouver légitime. Ça peut paraître étrange ou quoi, mais c'est nécessaire, bien en sûr, fait. Oui. Vraiment, c'est nécessaire.
Oui, parce qu'il y a des tabous qui sont...
Voilà. Et je tiens à préciser que ces ateliers-là, notamment Vois ton corps, ce sont des ateliers qui sont réservés aux femmes. C'est-à-dire qu'ils sont non mixtes. Et souvent, quand on parle de ça avec Laure, avec d'autres, on dit « Ah oui, mais alors, c'est pas sympa, c'est pas gentil, c'est méchant. » Voilà, c'est méchant. Et il y a tellement de trucs où c'est que les hommes, en fait, et ça pose problème à personne. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout qu'on est contre la mixité. Surtout, enfin, nous, à HF, on est vraiment très, très ouvert là-dessus. Et on pense que ça ne peut changer qu'avec les gars et les nanas, ça c'est sûr. Par contre, il y a des moments où c'est nécessaire pour que la parole se libère, pour que la confiance se restaure. C'est ultra nécessaire que ça se passe qu'entre femmes. Parce que voilà, on le sait, et ça a été prouvé, et il y a des chiffres, les mecs prennent beaucoup plus la parole et beaucoup plus facilement. Et ont tendance à manger aussi, voilà. Alors après, moi je suis comme ça, hein, j'ai tendance à bouffer la parole aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Mais donc c'est pas un problème pour moi, mais par contre, voilà, il y a des cadres où c'est vraiment nécessaire de se retrouver en confiance pour pouvoir parler de son projet
faire
professionnel.
Faire un cheminement.
Et faire un cheminement, tout à fait. Et du coup, La Petite fait ça très très bien.
Et donc elle fait partie aussi dans
l'organisation
des journées du matrimoine.
Les journées du matrimoine, c'est co-organisé avec donc HF, le mouvement HF, La Petite et OLF. Voilà, on est trois assos sur le coup, et donc Rime aussi qui a rejoint pour l'interprétariat.
Voilà, parce qu'il faut dire qu'au Théâtre du Grand Rond, vous travaillez beaucoup avec les associations, langue des signes.
Oui, voilà. Avec ACTS, tout à fait, qui est l'association culturelle en fait, toulousaine.
Et donc cette année, pour la première fois, mais c'est tout jeune, les journées matrimoine à Toulouse, dont il y aura notamment une des balades où il y aura l'association Rime pour justement interpréter les paroles qui seront dites ou chantées.
C'est ça. Voilà. C'est ça. En fait, c'est une envie qui traîne depuis, je ne sais pas si on peut dire depuis longtemps, parce que ça n'a que 3 ans, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on l'a en tête.
Après, il fallait le mettre en place, avoir le temps.
Voilà, il faut le mettre en place, il faut avoir un petit peu plus de sous aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis, on a décidé cette année de sauter le pas. Et du coup, on a sollicité nos amis de Rime, interprètes en mouvement, pour effectuer cette interprétation. Du coup, ce sera sur le parcours du dimanche après-midi, le dimanche à 16h, voilà, l'entièreté du parcours sera interprétée en langue des signes, ben voilà, pour que la parole
pour ne
se diffuse
sur le bas-côté, si
exactement.
Je puis dire.
Et dont Lucie Gaillard, puisque c'est vous la représentante aujourd'hui de l'association Interprètes en Mouvement, je vais peut-être vous demander de présenter cette structure, comment c'est né, de quelle volonté, combien vous êtes, qu'est-ce que vous faites, à qui ça s'adresse, profitez-en, nous avons le temps.
Alors RIM, donc Interprètes en Mouvement, effectivement, a été est née de l'initiative de trois personnes, donc Thérèse Boissier, Jeanne Bourrec et moi-même. Nous avions envie en fait de créer un service de proximité pour qui s'adresse au public sourd et au public entendant qui ait besoin d'interprétation. Voilà, donc on avait vraiment envie de créer quelque chose qui soit relativement petit, qui soit assez proche du public pour qui on s'adresse et que ce soit un service qui soit ouvert, réactif, etc. Donc nous avons longuement cherché un statut jusqu'au moment où on a découvert la maison de l'initiative, et c'est en ça que c'est les journées du matrimoine sont en lien aussi avec ce que l'on est et l'identité qu'on veut faire passer au sein de RIM. C'est que nous sommes trois femmes à avoir monté cette structure, et nous l'avons fait au sein de la maison de l'initiative.
Vous pouvez préciser la maison d'initiative pour les auditrices et les auditeurs.
Donc la maison d'initiative en fait est une coopérative d'activité et d'emploi qui a été montée il y a plus de 20 ans justement avec pour idée d'aider les femmes à l'entrepreneuriat. Donc ça a été créé par des femmes et pour des femmes.
Toujours dans cette ligne.
Voilà, toujours dans cette ligne directrice puisqu'on s'est rendu compte il y a 20 ans de ça que les femmes avaient des difficultés à créer des entreprises, à se voir patron, à se voir chef. Donc la maison d'initiative a créé justement des ateliers et une structure professionnalisante en fait de formation de façon à ce que les femmes prennent confiance en elles et se disent qu'effectivement elles pouvaient monter une entreprise, leur propre salaire, etc. Donc nous avons débuté l'aventure au sein de la maison d'initiative, et ça fait désormais 4 ans puisqu'on a été on s'est monté en 2013 et cette structure, donc toujours dans voilà, pour valoriser une idée qu'on apprécie, qui est l'économie sociale et solidaire, cette structure est une SCOP. D'accord. Donc c'est une grande entreprise partagée où on est plus de 60 associés. Et c'est quand même, voilà, c'est une aventure qui est intéressante puisque c'est aussi une façon pour nous de mutualiser les besoins et de faire en sorte qu'il y ait une solidarité entre entrepreneurs en fait.
Et quand vous parlez...
Et entrepreneuse.
Quand vous parlez des associés, c'est des personnes, des structures pour qui vous avez déjà travaillé, c'est ça ?
Alors non, là c'est vraiment... Là je parle de la structure de la maison de l'initiative, du fonctionnement
d'accord.
propre à la maison d'initiative, où en fait, effectivement, on a tous des activités différentes
d'accord.
et on s'entraide tous à travers nos différentes activités. Voilà, on a un chiffre d'affaires commun en fait.
D'accord.
Voilà. Et dans cette grande structure et dans cette grande entreprise partagée, nous avons une unité de production qui est celle de l'interprétation en langue des signes où nous sommes trois. Voilà.
Il y a une quatrième personne qui est arrivée.
Et une quatrième personne qui vient d'arriver il y a une semaine. Donc on est ravis, on s'agrandit un peu. Et voilà, donc c'est une bonne expérience, une bonne aventure qui continue.
Ouais. Et vous intervenez plus spécifiquement dans certains domaines ou pas ?
Alors, c'est la spécificité du métier d'interprète en langue des signes, c'est qu'on est très généraliste, donc on intervient dans tous les domaines. C'est ce qui en fait aussi la difficulté, l'intérêt, mais la difficulté. Donc on intervient pour des particuliers sourds, par exemple, qui ont besoin dans leur vie quotidienne d'interprètes en langue des signes.
Au niveau de l'administratif, mettons.
De l'administratif, du médical, du scolaire, de la vie familiale aussi.
Plein
de domaines différents. Également pour les entreprises, puisque le public sourd est un public qu'on ne voit pas, qui est assez invisible. Mais il y a énormément de sourds qui travaillent dans plein d'entreprises différentes, des entreprises qui peuvent être très connues. Et donc ces entreprises font appel aux interprètes
d'accord.
pour aller traduire les entretiens annuels, les réunions d'équipe, etc. Et ensuite, on a la chance de travailler avec le secteur culturel ou sportif. Et donc de participer à des événements un peu plus grands qui permettent de rendre accessibles les événements culturels. Voilà.
Et quand vous parlez dans le domaine sportif, c'est-à-dire vous Vous traduisez les commentaires, c'est ça, les présentations?
Alors, on n'est pas sur le terrain, quoique ça pourrait nous arriver. On pourrait courir après l'arbitre. Mais parce que ça nous arrive, hein. On traduit aussi ce genre de choses-là pour des particuliers. Les événements sportifs, ça dépend. Il y a plein d'associations qui travaillent sur l'accessibilité du sport, la mixité des publics via le sport, comme on peut le faire via la culture, via le sport.
Et donc, pour pouvoir expliquer de quoi il retourne.
Voilà, d'accord. Oui. Okay. Oui,
oui. Et donc là, le secteur culturel est là, l'audition. Et donc, vous intervenez au théâtre en...
Alors, nous, on
dans
a...
les bibliothèques, enfin, je ne sais pas.
Voilà, tous ces milieux-là, effectivement. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de privilégier la langue des signes faite par les sourds eux-mêmes.
Oui.
Toulouse, par exemple, est une grosse place, place forte, en fait.
Au niveau de la formation.
Et
de l'accueil aussi des enfants ou des adultes, d'ailleurs.
Et de l'accueil, effectivement, des enfants, puisque Ramonville accueille tout un parcours bilingue. Donc, les enfants ont la possibilité de suivre un enseignement bilingue de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, ça fait venir énormément de familles sourdes sur Toulouse. Mmh. Et du coup, il y a une grande richesse toulousaine, en fait. Donc, il y a pas mal aussi de créations en langue des signes qui se font ici, et de comédiens et de comédiennes sourdes.
Oui, il y a des spectacles.
Voilà. Mmh. Donc, le but de l'interprète, vraiment, est de ne pas prendre la place des artistes sourds, mais bien de venir en complément. Donc, nous, on va... Dans le domaine culturel, on intervient beaucoup lors des préparations, des workshops, des résidences, de façon à ce que les artistes sourds et les artistes entendants puissent créer des choses ensemble. Mm-hmm. Disons qu'on est plus sur les à côté, pour que, sur scène, ce soit les artistes sourds qui s'expriment directement.
D'accord.
Après, il y a certaines formes de... certaines formes artistiques qui se prêtent bien à l'interprétation. Mmh. Donc, il nous arrive effectivement de traduire ce genre de choses.
Oui. Et là, les journées du matrimoine, comment cela s'est-il fait ?
Eh bien, c'est Marilyn qui nous a contactés, qui nous a dit qu'il leur manquait 4 filles.
C'est ça.
Voilà. Donc, Marilyn nous a contactés. Et nous, la façon dont on procède, en fait, c'est qu'on voit un petit peu quelle est la demande et comment on peut y répondre au mieux. Mmh. Marilyn a l'habitude de ça, donc elle savait pourquoi elle s'adressait à nous directement. Mais généralement, on étudie la demande, on voit s'il n'est pas possible qu'un artiste sourd se greffe au projet, si le timing est un peu court, ou si au sein du spectacle, ou au sein du parcours, il y a énormément d'improvisation et ce genre de choses-là, à ce moment-là, la présence d'un interprète est justifiée, oui.
D'accord. Donc là, je vous propose peut-être de faire une petite pause musicale, et donc nous allons écouter Clara Schumann, qui était une compositrice, une pianiste. Voilà, elle a la chance, malgré tout, d'avoir été un petit peu connue et que ses œuvres soient jouées, parce qu'il y a beaucoup de compositrices, vraiment... il faut vraiment être très intéressé par la musique pour savoir. Mais Clara Schumann, elle a un peu plus de notoriété. Donc, nous écoutons Clara Schumann et ensuite, nous allons venir plus précisément sur les journées du patrimoine, donc du 15, 16 et 17, puisque ça commence le 15 au soir au musée Paul Dupuy, avec lequel il y a un partenariat. merci. Bon, nous vous avons écourté un peu, entre grands regrets, la musique de Clara Schumann, mais nous nous réécouterons peut-être une autre fois. Et puis, au moins comme ça, elle aura été mise à l'honneur. C'est une compositrice. Et donc maintenant, nous allons parler plus spécifiquement des journées du matrimoine 2017, oui, le 15, 16 et 17. Mmh. Voilà, donc c'est deux jours, et puisque ça commence le 15 au soir, pas très loin d'ici, au musée Paul Dupuy.
Tout à fait.
Pouvez-vous nous parler de ce partenariat?
Oui.
Il a accueilli déjà la conférence de presse, était lundi.
Mardi matin, la conférence de presse.
Je suis fâchée avec les jours, c'est terrible.
Oui, on est vraiment très très heureuse de ce nouveau partenariat avec le musée Paul Dupuy, parce que déjà c'est un super chouette lieu, mmh. et que vraiment l'équipe est très agréable. Et du coup là, ce partenariat là, il vient aussi grâce à la petite en fait qui connaît bien,
qui a déjà
les
des liens
du
avec
musée, qui a déjà des liens, et grâce à qui du coup on a pu proposer cette à la fois la conférence de presse d'une part, et puis donc le vendredi soir la soirée d'inauguration. Donc ça, c'est chouette parce que ça fait vraiment un plus sur les journées du matrimoine, ça met un focus de plus. Et du coup le principe de la journée d'inauguration, donc ça commencera à 19h au musée Paul musée Paul Dupuy. On commence par une pechakucha. Alors moi je connaissais pas ce mot, mais on m'a expliqué. Voilà, c'est une présentation de projet. D'accord. Donc en fait ce sont plusieurs créatrices en fait toulousaines qui vont venir, qui ont une contrainte timée, je sais plus, je crois que c'est 10 minutes ou 5 minutes
pour présenter leur projet.
Voilà. Et donc il y aura 5 ou 6 créatrices comme ça qui viendront présenter leur travail, et après on revient sur le domaine musique de la petite, et ce sera du coup une DJ partie dans le parc, parce que c'est sûr il fera beau, voilà, avec du coup plusieurs DJ. Il y aura Véronica et Jules Coeur, alors voilà, c'est pas moi la spécialiste, mais des DJs d'ici.
Mais
voilà.
Dans le parc, vous voulez dire dans la cour
du musée, ouais.
D'accord, dans la cour pavée.
Alors la pechakucha, la présentation de projet, sera prévue dans l'auditorium.
Oui.
Sera dans l'auditorium.
Où était la conférence de presse.
Voilà, exactement. Et normalement, si tout va bien, la soirée DJ est prévue dans le parc à partir de 19h. Voilà, pour la soirée d'inauguration, pour nous mettre en jambes pour le week-end.
Voilà. Et donc, le lendemain, ce sont les balades. La première, elle est à 17h le samedi.
Oui, c'est ça, alors il n'y en a qu'une le samedi. Il n'y en a qu'une le samedi, ce sera à 17h. Et puis ensuite, le dimanche, on rattaque à 11h, juste avant le brunch. Et puis après, à 16h, juste avant le goûter.
Et donc, vous avez choisi d'honorer, si on peut dire, quatre dames toulousaines, ou du moins de la région.
Oui.
Et dont l'an passé, il y en avait déjà quatre différentes.
On peut les citer d'ailleurs, ça fait jamais de mal. On les recite l'année dernière, c'était Germaine Chaumel, René
Aspe, photographe.
Ouais. Marie-France Brive, Marguerite Canal et Marie-Louise Dissard,
résistante. Qui était une résistante très jeune.
Et donc du coup on a cherché et on a trouvé quatre nouvelles figures féminines cette année. Alors il faut savoir que nous on a besoin de ressources parce que c'est pas notre spécialité du tout. On a, en tout cas au niveau de l'organisation, on travaille tous dans le milieu artistique.
Vous faites appel à chacun si vous connaissez quelqu'un,
voilà, exactement, parce que du coup les résistantes ou les choses historiques, enfin c'est quand même pas notre domaine. Donc on a des ressources, heureusement, notamment dans le réseau féministe aussi. Je pense à Irène Coradin qui nous a beaucoup accompagnés,
qui est une ancienne enseignante
qui est une personne magnifique, et qui nous a beaucoup accompagnés l'année dernière. Enfin voilà, on a des ressources comme ça qui nous mettent un petit peu les puces à l'oreille, et puis après nous on va chercher. Donc cette année, pour le parcours, on a choisi Angelita Bettini del Rio. Là ce sera pour le côté résistante. Voilà, on essaye toujours d'avoir un équilibre en fait entre des personnes politiques ou résistantes,
militantisme
et des artistes en fait. On essaye toujours d'avoir cet équilibre là. Et Angelita, elle est toujours vivante.
Oui. C'est une nonagénaire.
Ouais, tout à fait. Et on a normalement les artistes qui sont reliés à son temps ont pu la contacter pour échanger. Avec elle, on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, pour la figure résistante, on a choisi de rendre hommage à Angelita. Voilà.
Qui vit toujours à Toulouse.
Elle n'est pas très très loin de Toulouse. Ouais. Je ne crois pas à Toulouse même, mais pas très très loin.
D'accord.
Voilà.
Maddy Mesplé.
Maddy Mesplé.
La cantatrice.
La cantatrice. Alors, qui est énormément connue. Voilà.
Oui, oui.
Et en fait, moi,
je
j'ai.
Je vous le confirme.
Ben, voilà, je sais. Mais voilà, je suis d'une grande inculture. Je suis allée parler à Sylvie Froidefond à l'espace des diversités. Et on parlait justement, tiens, des femmes qu'on pourrait aborder. Et puis, elle me jette comme ça. Bon, ben, il y aurait Maddy Mesplé, mais bon, tout le monde la connaît. Alors, je lui ai dit oui, pour pas avoir l'air sotte.
Elle est née à Toulouse.
Et puis, je suis repartie voir mes collègues. Et puis, quand mes collègues m'ont dit, mais non, mais nous non plus, on la connaît pas, on s'est dit, bon, eh ben, c'est pas grave. Peut-être elle est très, très connue, mais peut-être qu'il y a quand même encore des gens qui la connaissent pas. Elle est encore vivante et on s'est dit, bon, bah, du coup, on la met sur le parcours.
Puisqu'elle a une carrière.
Voilà. Elle a quand même une carrière internationale.
Comme cantatrice.
Ultra conséquente. Ouais. Elle a chanté
très, très longtemps.
Ouais. Et du coup, voilà, on s'est dit, mince, on est trois là, on est trois à pas la connaître, ça suffit pour qu'on se fasse plaisir. On a choisi ensuite...
Et pour elle, qui c'est le pas artistique enfin,
alors, donc pour Angelita, la première, la résistante, ce sera la compagnie Philao,
oui,
qui est une compagnie de danse, avec du coup Cyril Veracruzieux et Géraldine Borgi. Et ils feront une variation du coup dansée sur le premier arrêt. Voilà, ce sera chorégraphique. Pour Maddy Mesplé...
J'imagine.
Alors, du chant, mais pas que.
Pas que de la danse,
ça ce sera vraiment un mélange. Là, ça va être un gros arrêt, parce qu'il y a beaucoup d'artistique sur cet arrêt-là. Ce sera à la fois, donc, du chant avec la compagnie Trauma, chant-théâtre, en fait, avec Diane Launay.
Qui est une cantatrice, elle
voilà,
aussi.
Voilà, exactement.
Qui est comédienne, mais pas que.
Pas que, exactement. Elle fait les deux.
Elle fait de la formation aussi.
Ouais. Elle est elle sera donc accompagnée par les danseuses de la compagnie MMCC, Marianne Masson et Kaya. Et elles seront aussi accompagnées par Julie Jordi pour le son, qui fait partie des Trash Courtes. Voilà.
Et qui est très dynamique.
Et qui est très très dynamique. Donc
qui chante, qui fait plein de
choses. C'est un arrêt qui va bien bien envoyer. Voilà, pour parler de Maddy Mesplé, je pense que ça va être chouette.
La troisième personne.
Ce sera Federica Monzoni, qui est militante, anarchiste, syndicaliste, la première femme ministre en Espagne. Elle a beaucoup fait aussi par rapport à l'avortement, donc ça a plus ou moins bien réussi parce que voilà, le contexte était délicat. Et du coup, on l'a choisie aussi parce que effectivement, c'est une militante espagnole, mais elle est décédée. À Toulouse.
Elle a longtemps vécu à Toulouse d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Elle a longtemps. Bah, après l'exil, elle s'est installée à Toulouse. Et elle est enterrée d'ailleurs à Toulouse, etc. Donc on s'est dit, voilà, c'est quand même une figure importante
qui s'est battue,
de la ville, qui s'est battue, etc. Donc on s'est dit que voilà, Federica avait toute sa place. Et du coup, pour Federica, ce sera la chorale de l'Ébranleuse.
D'accord.
Qui sera là au tout début du parcours aussi. Mm-hmm. Mais ça, c'est plus pour une surprise, donc j'en parle pas trop. Et ce sera la chorale de l'Ébranleuse qui nous fera probablement des chants de lutte, des chants de lutte espagnols sur l'arrêt de Federica.
Donc, voilà. Elles sont très dynamiques aussi.
Très expressives, très en place et très motivées. Elles étaient. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de... Enfin, longtemps. On avait envie de les accueillir depuis l'année dernière sur le parcours. Comme elles sont très nombreuses, c'est très compliqué à caler. Oui. Mais là, ça y est, cette année,
vous avez réussi.
Ouais.
Et vous, Lucie, vous allez interpréter leur chant. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous procéder?
Alors, malheureusement, sur le parcours, donc le dernier parcours du dimanche, celui que nous interprétons...
Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas les filles... Les branleuses est avec nous le samedi
et le
uniquement.
Dimanche,
et le dimanche, elles pourront pas être là. Donc, elles seront avec nous que le samedi. Et du coup, l'interprétation ne se pose pas...
Après, ça aurait été un très beau challenge.
Oui.
Ça aurait été avec plaisir. J'aime beaucoup la chorale de l'Ébranleuse, donc j'aurais relevé le challenge avec plaisir.
Peut-être que ça aurait été possible sur la première, donc... que je révèle rien, c'est une surprise, mais elle est en français. Peut-être là, ça aurait été possible pour
effectivement. Vous, alors nous, effectivement, pour l'interpréter, ça aurait demandé un travail.
Oui, une autre approche.
Une autre approche, puisque le chant signe, c'est quelque chose qui existe.
Oui.
Le chant fait par des sourds ou par des entendants qui signent. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très similaire à la musique. Il y a une rythmique, il y a une
démarche bien particulière.
Voilà, il y a une beauté du mouvement, du geste, du rythme qui fait qu'on appelle ça le chansigne.
D'accord.
Voilà.
C'est magnifique. Si vous avez l'occasion de voir du chansigne, c'est trop beau.
Ouais. Ouais,
mais effectivement, ça se travaille bien en amont. Et puis là, voilà, si c'est des chants en espagnol.
Des chants en espagnol et puis même des chants en français, où les chants en français, forcément, il y a une poésie qui est propre à la chanson, un message. Voilà, donc c'est une retranscription totale d'un texte en français vers une autre langue, en fait. Donc c'est très particulier et il faut des compétences un petit peu particulières aussi.
Mais au niveau de la gestuelle, ça, c'est presque de la chorégraphie, à la limite.
Ça pourrait s'apparenter à de la chorégraphie.
Bon, avec le rythme, parce que une langue, le chant... Oui, les mots ne sont pas modulés différemment que lorsque nous causons. Quoi.
Mais effectivement, c'est exactement ça. Le signe va être modulé différemment. D'accord. Les liaisons entre les différents signes vont être très spécifiques de façon justement à rendre une langue plus poétique.
Ah oui, c'est vraiment tout un travail. Quoi.
Oui, c'est
particulier.
C'est un travail d'adaptation en fait.
D'accord.
Comme on pourrait adapter une pièce de théâtre, on adapte d'une langue à une autre. Oui. Pour rendre le même effet, en fait.
Oui, puisque voilà, il y a une histoire de rythme, respiration, en fait. C'est tout un ensemble, quoi. Ce ne sont pas que des mots.
Tout à fait.
D'accord. Je vous laisse peut-être continuer, la quatrième invitée, si nous
pouvons
dire.
Du coup, ce sera la dernière. C'est Raymonde Carrasco, qui là est...
chercheuse universitaire.
C'est ça.
D'ailleurs, il y a eu un colloque il n'y a pas très longtemps, à l'université Jean Jaurès.
Oui,
il y a
c'est
eu
possible.
2-3 ans, je ne sais plus.
Oui. Raymonde, qui est donc toulousaine, enfin qui était toulousaine puisqu'elle est décédée du coup en 2009. Philosophe, documentariste, grande voyageuse, militante
cinéaste
aussi. Cinéaste, documentariste, cinéaste. Pour parler de Raymonde Carrasco, on est allé demander à la compagnie d'elle, donc la compagnie que dirige Yaël Antoine. Ce sera du cirque en fait sur cette étape autour de Raymonde Carrasco. Et Yaël en fait a fait beaucoup de recherches, alors pas pour le matrimoine, mais avant en fait. Elle a beaucoup travaillé sur Raymonde Carrasco.
D'accord.
Et du coup, quand nous on a construit ce parcours là, tout à fait spontanément, on est allé demander à la compagnie d'elle si elle voulait bien nous accompagner sur les parcours. Et du coup, Yaël était ravie de pouvoir rendre hommage à Raymonde Carrasco. Donc la boucle est bouclée sur ce parcours en 4 étapes.
Vous l'aviez proposé de venir, mais elle est trop occupée.
Elle est en résidence, Yaël, en ce moment, et du coup, c'est un peu la course. on échangeait des mails ce matin, et du coup, elle essaye de se coordonner aussi avec la personne avec qui elles vont faire la performance de la semaine prochaine, mais il y en a une en Espagne, une à Bruxelles, enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on sera prêts pour samedi prochain.
C'est une performance circassienne, c'est ça ?
Performance circassienne, tout à
D'accord.
fait. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais ce sera performance circassienne. Donc du coup en fait on aura vraiment de la danse, du chant, du théâtre et du cirque. Voilà. Et puis bien évidemment, et parce qu'on
il y a Nathalie Vino qui c'est le fil rouge, c'est elle qui accueille et puis qui nous promène.
On lui doit un énorme grand merci, un énorme coup de chapeau parce qu'elle fait un travail incroyable. Elle fait déjà un travail de documentation sur chacune des
personnes,
femmes du parcours.
Ouais. Et elle synthétise tout ça.
Elle synthétise parce qu'en plus on lui demande évidemment de respecter un timing, n'est-ce pas qu'elle s'empresse de dépasser évidemment, mais du coup, elle écrit vraiment ça comme un texte vraiment théâtral, en fait. En se laissant évidemment la liberté d'interagir avec le public, de se laisser surprendre par ce qui se passe dans la ville aussi, parce que Nathalie va notamment cette année va intervenir dans son personnage de clownesse. Elle se laisse vraiment une grande liberté d'improvisation autour de ça, mais elle a quand même et on l'a vu l'année dernière, elle a fait un travail de recherche autour de l'histoire et autour de ces femmes. Il y a vraiment une
trame,
et du coup, on a vraiment un très très bel équilibre entre ce que nous transmet Nathalie par rapport à ses parcours de femmes, en fait, et le croisement avec les artistes qui viennent, qui viennent rendre hommage, mais qui viennent rendre hommage avec aussi ce qu'elles sont, avec aujourd'hui, avec leur art d'aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que ça... je crois que c'est un joli moment. C'est un joli moment.
Mais l'an passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la balade du dimanche, concernant la résistante, où il y a une plaque rue de la Pomme.
Oui.
Et elle a dit, j'arrive en retard parce qu'en fait, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit qu'il avait connu...
Tout à fait.
Je ne me souviens plus le prénom de Marie. Non, c'est pas Marie. Denise.
Marie-Louise. Marie-Louise, ça. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un parcours de rue. Ce sera un parcours en 4 étapes. On va rester dans l'hypercentre, train. Le centre de Toulouse, ouais. Vraiment. On ne révèle rien, mais on va rester en hyper-centre.
Donc les lieux ont un rapport de loin ou de près avec l'histoire
les lieux,
de...
Exactement, avec les femmes,
des
en fait.
Des personnages.
Exactement. Et ce n'est pas toujours facile, parce que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de noms de rues ou de noms de places qui ont des noms de femmes.
Ça,
voilà.
C'est mieux qu'on puisse dire.
Mais en tout cas, ça reste un parcours de rue. Et du coup, forcément, ça interpelle les gens. Mm-hmm. En tout cas, les gens qui passent et qui n'avaient pas prévu d'assister.
Et
qui écoutent et qui réagissent et qui interpellent.
Qui vous rejoignent.
Donc voilà, qui nous rejoignent en cours, qui se posent des questions. Donc voilà, tout ça. Nathalie, avec son personnage de clown, en tout cas, elle réagit à tout ça. Et elle compose aussi avec tout ça, parce que c'est aussi le jeu des parcours. Et puis, c'est aussi... l'idée de reprendre l'espace public, en fait. Vraiment.
De se le réapproprier.
De se réapproprier l'espace public. Oui.
Et par les temps qui courent, je trouve que c'est fort important que les femmes se réapproprient l'espace public, parce que vraiment, ça devient compliqué.
Ça devient compliqué. Ouais. Donc, c'est aussi... c'est vrai que du coup, ces journées du matrimoine, elles ont rassemblé pas mal de forces au niveau du territoire, parce que ça recoupe pas mal d'idées, en fait. La mise en valeur d'un héritage culturel, la mise en valeur d'artistes aussi d'aujourd'hui, la prise d'espace public, la circulation d'informations, voilà. Et c'est vrai que ça nous paraît une forme vraiment très importante à défendre, pour la défense, vraiment pour la défense de tout ce qu'on défend, justement. C'est un bon condensé, en fait. Voilà. Voilà pour les... Et si, il faut que je dise une dernière chose, après j'arrête de parler. On va terminer par un collage, comme l'année dernière, un collage participatif, en fait.
C'est-à-dire qui émane de ce qui est fait aujourd'hui.
Qui émane du workshop d'aujourd'hui. Là, les personnes qui participent au workshop sont en train de préparer les différentes images, etc., etc. Et on va récolter tout ça pour les collages, en fait, de la semaine prochaine à la fin du parcours. Voilà, on a trouvé un endroit idéal de collage.
Qui reste secret.
Idéal et illégal, et qui reste secret. Mais ça va être parfait.
Donc, je sais que les différentes haltes restent secrètes aussi, mais le rassemblement, c'est quand même devant le musée Augustin.
Tout à fait.
C'est-à-dire dans le parvis, quoi. Dans
tout à fait, oui, sur le devant. De toute façon, nous, comme l'année dernière, on aura des panneaux avec les portraits des différentes femmes qu'on va évoquer. Donc, je pense que vous nous repérerez de loin. Et du coup, le rendez-vous, ce sera devant le musée des Augustins. Pour le confort des parcours et pour savoir un tout petit peu où on en est, parce que du coup, on a rajouté un parcours par rapport à l'année dernière, parce qu'il y avait eu beaucoup de monde l'année dernière. Et du coup, on s'est dit, voilà, on fait un parcours de plus pour que ce soit plus confortable. Et du coup, pour que ça, ce soit possible, on demande juste aux gens d'aller sur le site du Théâtre du Grand Rond, qui nous prête un petit bout de son site internet. Merci à eux. pour effectuer la réservation. Alors, il n'y aura pas de tickets à retirer, il n'y aura pas de choses contraignantes.
C'est pour vous.
C'est juste pour nous qu'on puisse faire un petit peu au niveau de la jauge et que ce soit agréable sur les 3 visites à suivre. Donc voilà, vous allez simplement sur la page d'accueil du Grand Rond, il y a un petit onglet sur la gauche avec les journées du matrimoine, vous pouvez tout simplement réserver, comme ça nous on sait où on en est sur chacune des visites pour que ce soit bien agréable.
Et une question peut-être qui va vous paraître, je sais pas, pardon, j'ai touché le micro, il ne faut pas le faire, excusez-moi, désolée. Non, c'est moi qui... je me souviens que l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de monde. Quand j'étais venue le dimanche, c'était quand même assez conséquent. C'est dehors, c'est dans la rue.
Ouais.
Au niveau des autorités, comment ça se passe-t-il ? Vous avez une autorisation spéciale ou pas ? Ou vous n'avez pas le droit de le dire ou...
Alors, on va déclarer le parcours, là, très bientôt.
D'accord.
Pour être tout à fait au clair.
Pour être en règle.
Après, les journées du matrimoine sont soutenues par la mairie. Par la région, le département, la DRAC. Donc, a priori...
Il n'y a pas de soucis. Non, mais c'était une question
pas avoir
qui
de
me...
soucis. Non, mais c'est vrai. En fait, on s'est posé la question l'année dernière parce qu'à un moment donné du parcours, on a vu arriver les flics et on s'est dit, oh là là, mais on n'a pas du tout déclaré le parcours.
Ah, vous ne l'aviez pas fait l'an
passé. On n'avait pas fait l'an passé, mais on n'y avait juste pas pensé, en fait.
Ah, vous êtes arrivé comme ça.
Ah oui, non, on reprend l'espace, en fait, vraiment. Et le truc, c'est aussi que l'année dernière, on ne pensait pas être aussi nombreux.
Vous l'aviez dit, oui.
Vraiment.
Ah oui, là. Puis l'an passé, il y avait des personnes aussi qui se greffaient en cours de route.
C'était ultra convivial, c'était génial. Donc du coup, on n'avait même pas du tout pensé à ça, en se disant, on va se faire une petite balade tranquillou. En fait, non, pas du tout. Donc du coup, voilà, cette année, on essaye de prévoir un peu plus les choses. Donc effectivement, vu en plus... le contexte, l'état d'urgence, tout ça. Voilà, on veut pas qu'il se passe quelque chose de pas bien. Donc on va déclarer aux personnes compétentes et intéressées, on va déclarer notre parcours pour être complètement en règle et sécurisé. Et puis comme ça, on est tranquille là-dessus.
Puisque vous évoquiez la mairie, le conseil départemental, c'est ça, le conseil départemental et régional.
Et régional, oui. Ouais.
C'est aussi qui financièrement vous aide.
Oui.
Par rapport, puisque bon, les artistes, j'imagine, sont rémunérés.
C'est grâce à ces subventions-là qu'on on peut mettre en place.
Puis vous avez une logistique aussi par rapport au son, enfin tout.
Tout à fait. Alors pas tout, c'est-à-dire que les subventions qu'on a reçues de la mairie et du département sont entièrement fléchées sur les journées du matrimoine, entièrement. Pour ce qui est de la DRAC et de la région, c'est une petite partie de notre projet plus global, puisqu'évidemment on a d'autres actions au fil de la saison, et du coup on prend une toute petite partie de ça. Par contre, pour la mairie effectivement et le département, c'est intégralement pour les journées du matrimoine en fait. Ça veut dire effectivement la logistique,
la communication,
les locations de matériel, la communication, la rémunération des artistes, des interprètes, le matériel, les affiches, enfin voilà,
les affichages.
Voilà, tout ça. Et sachant que par contre, l'entièreté de l'organisation est complètement bénévole et voilà, mais en tout cas, on a ça pour rémunérer les artistes et les interprètes et les intervenants.
D'accord. Et je vais vous demander, Lucie, à une semaine, oui, à peu près, une semaine et un jour, comment, dans quel état êtes-vous? Comment le ressentez-vous, votre prestation? Puisque c'est nouveau, cette formule-là.
Tout à fait, là. Or, c'est un challenge à chaque fois pour nous, ce genre d'événement, parce que c'est un événement public. C'est,
dehors,
c'est du théâtre.
Avec du gens qui arrivent comme ça, ou qui partent, enfin voilà quoi.
Voilà,
ce n'est pas stable, je veux dire.
Oui, or, ça, on a l'habitude d'intervenir devant du public, c'est pas forcément ce qui peut poser problème pour nous. Ce qui est un peu plus problématique, c'est tout ce qui est improvisé, tout ce qui est tout ce qui va être de l'ordre de la surprise, puisque quand on interprète, on est vraiment concentré sur le message et sur la retranscription dans une autre langue, et du coup toutes les petites blagues que peuvent faire les artistes, toutes les petites surprises qui nous réservent peuvent nous mettre un peu dans l'embarras parfois. Donc nous, là, à une semaine de l'événement, on est vraiment sur les dents pour contacter les artistes, les gens qui sont au courant d'un maximum de choses pour que nous-mêmes on puisse se préparer et avoir le moins de surprises possible. Donc je pense que moi je vais venir en tant que spectatrice sur les journées du samedi, enfin sur la visite du samedi, voir un peu
comment
ça se passe, comment l'espace est utilisé de façon à être bien préparée dimanche.
Il y a la déambulation, oui, bien sûr.
Oui, parce que l'idée, c'est de ne pas interférer dans ce qui se passe, mais d'en faire complètement partie, de ne pas gêner, d'être vu mais sans gêner. Voilà, c'est un subtil
mélange très ténu,
de façon à ce que ça se passe bien et que ça soit fluide en fait.
Et là, au niveau des artistes, vous les avez rencontrés plusieurs fois, comment cela se passe-t-il?
Alors,
pour vous imprégner de leur
Marilyn est notre et notre référente en chef. Après, lors de la conférence de presse, a été l'occasion pour nous justement rencontrer les artistes et de voir avec eux. Déjà, qu'ils nous acceptent, c'est déjà une chose.
Parce qu'on
rentre dans leur espace de jeu.
Bien sûr,
c'est un petit peu. Et puis, la langue des signes est une langue visuelle.
Oui.
Donc, parfois, le public accroche sur l'interprète et a du mal à se. À détacher le regard parce que c'est particulier. Donc avec les artistes, c'est bien de se présenter, d'expliquer un peu comment ça va se passer et puis nous, encore une fois, de prendre toutes les informations nécessaires pour faire une bonne interprétation le jour J.
Donc vous allez vous relayer, si j'ai bien compris.
On est deux, parce que c'est assez intense. Nous sommes deux et généralement on se relaie tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes. Voilà, on essaye de faire quelque chose comme ça.
D'accord. Peut-être vous pourriez dire, vous parliez tout à l'heure de Facebook, si les gens veulent
Si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur le Facebook du mouvement HF. Je suis un peu nulle en Facebook en fait, au secours. Vous pouvez aller aussi sur, il y a une page Journée du matrimoine, je crois, sur Facebook. Et
Timothée nous dit que oui.
Voilà.
Merci Timothée.
On a. Je remercie d'ailleurs Margot à la petite qui gère Facebook de main de maître. Et puis voilà, pour les réservations, vous avez un petit encart sur le site aussi du Théâtre du Grand Rond où il y a aussi des informations, etc. Voilà. Voilà, en gros.
Et donc, je rappelle, trois rendez-vous, samedi 17h, dimanche 11h et dimanche 16h. Et
devant le musée des Augustins.
Et ensuite, c'est l'aventure.
Et ensuite, c'est l'aventure et l'inauguration
le vendredi soir
au musée Paul Dupuy à 19h.
Pour rencontrer aussi des créatrices, si j'ai bien compris.
On rencontre les créatrices et puis après, on fait la fête avec les DJ. Voilà.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et donc, nous allons nous quitter avec un hymne. Je vous laisse découvrir.
Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis. Achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 seules dans notre malheur. Femmes, l'une de l'autre ignorée, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 reconnaissons-nous. Femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 le temps de la colère. Découvrons